Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, messieurs.
Oui. Mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Mais donc voilà, ici on est donc au Bruderbach. Je sais pas si quelqu'un de vous est déjà venu par ici, mais c'est un peu le lieu emblématique du domaine. Hein. C'est ici que Étienne a retravaillé, a remodelé un peu le paysage. Parce qu'avant ici c'était... Bon, la vigne a été toujours cultivée ici, mais quand Étienne est venu ici, il y a 30 ans, bah, c'était recouvert de forêt ici. Hein. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait pour défricher et puis implanter la vigne qui a toute sa place. Donc c'est un lieu assez emblématique parce que déjà on a une vue sur tout le vignoble de Westhoffen. Il y a un peu cette forme en amphithéâtre qui prête bien à avoir une bonne vision globale du vignoble qui nous entoure. On voit la quasi-totalité de nos vignes en plus. On y a nos moutons, donc c'est toujours un endroit assez agréable avec une bonne énergie quoi. Et c'est ce qui permet de voir d'avoir une vue sur bien sûr la cathédrale de Strasbourg. Et puis voilà, moi je vais vous détailler un peu toutes les structures, toutes les géologies différentes qu'on a, mais avant ça on peut regarder déjà à l'échelle du paysage. Vous vous êtes tous baladés sur la route des vins, que ce soit dans le Haut-Rhin ou dans le Bas-Rhin. C'est quand même assez rare d'avoir une telle diversité dans le paysage. On n'a pas du tout une monoculture qui est juste axée sur la vigne. Westhoffen, capitale de la cerise d'Alsace, forcément, hein, mais il n'y a pas que de la cerise, hein, y a plein de vergers. Là, on trouve qu'il y a un bel équilibre entre vignes et vergers. Il y a aussi des agriculteurs qui travaillent assez bien, qui sont bio d'ailleurs, avec les vaches là-bas, les moutons, il y a quelques chevaux. Mais ce qu'on aime bien voir ici, c'est ce côté amphithéâtre. Et c'est pas que de la vigne, quoi. On a quand même un bel équilibre entre verger et vigne. Donc là, l'agroforesterie, elle a tout son sens, hein, finalement. On n'a pas besoin de planter d'arbres dans nos vignes, nous, parce qu'on a déjà tous ces arbres-là qui sont là et depuis toujours. Donc ça, l'équilibre, la biodiversité, elle est là, quoi. Donc voilà, ça, c'est de la bonne biodiversité comme on aime. Au-delà de ça, on a une vue donc sur le Schararberg, qui est vraiment au loin, là, les deux mamelons qu'on voit qui dépassent au loin. On a le Schararberg à gauche, qui abrite aussi l'Engelberg en contrebas, et on a l'Altenberg de Volksheim qu'on voit à l'autre bout au final. Là où vous voyez le bulldozer orange là, vraiment au loin, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une espèce de bulldozer qui travaille sur l'Altenberg de Bergbieten. D'ailleurs, je crois bien que c'est notre ami Jean Dreyfus qui est en train de remodeler certaines de ses parcelles. On est sur le Bruderbach, on voit tout le Bruderbach. On voit l'Ostenberg là-bas. Le Geierstein juste avant, c'est le relief qui est un tout petit peu avant. On a le Balverbari, donc c'est le Balbrunnerberg qui représente toute cette face là. Et puis le magnifique village de Westhofen, quoi. Qu'est-ce que c'est beau! Donc voilà, vue d'ensemble, on a une belle vue, on voit vraiment que le paysage il est modelé différemment. Il y a ces deux mamelons qui se dégagent. L'Ostenberg qui est une vraie colline bien exposée sud. Ici, on est en amphithéâtre, on a plusieurs orientations possibles. Donc ça dégage quelques énergies qu'on aime bien. On aime bien venir ici, que ce soit hiver, été, automne, printemps. On est quasiment en monopole en plus. Il y en a quelques voisins, mais toutes les vignes que vous voyez donc en contrebas, ça c'est le Clos des Frères. Là on est sur le Holzkos ou le Marienberg, où on a Riesling Pinot Gris. Là on est en train de remodeler, retravailler une parcelle là, que vous voyez avec le bulldozer. Ça va être du Riesling aussi. En fait, quasiment toutes les vignes du Bruderbach sont à nous, et on a encore le Clos des Sœurs qui est de l'autre côté, qu'on classe aussi en Bruderbach. Voilà, donc c'est notre endroit à nous, quoi. On aime bien être là. Donc ça c'est pour le paysage global. En fait, d'ici on peut donc voir tout ce modelé du paysage. Et en fait, ça traduit aussi une géologie qui est particulière. À l'échelle d'un paysage, on peut effectivement déceler et puis lire les différentes structures géologiques à l'échelle d'un vignoble. Bon, les géologues, nous, on aime bien partir du plus gros au plus petit en général, en termes de vision. Donc je vais commencer d'abord par vous présenter un rapide historique, on va dire, les grands ensembles du vignoble alsacien, enfin de la région Alsace, on va dire. Donc grossièrement, je vais essayer de simplifier quand même, grossièrement, l'Alsace, elle se découpe en trois majeures parties. On a les Vosges cristallines, les Hautes-Vosges, qu'on peut voir là derrière nous. C'est le grès, qui sont essentiellement constitués de grès des Vosges et l'aspect cristallin, granitique, donc c'est les Vosges cristallines, quoi. On a les collines sous-vosgiennes. C'est là où on se trouve actuellement. C'est plutôt des dépôts sédimentaires de type les grès, les calcaires, les marnes, pour faire simple. Hein. Et c'est là où tout le vignoble alsacien se concentre. Et on a la plaine alluviale du Rhin. Donc ça, c'est le côté plat. Là où il y a la cathédrale. Et puis on voit que c'est vraiment un relief qui est vraiment aplani. L'ancien lit du Rhin, quoi. C'est plat et c'est alluvionnaire. Les trois grandes structures, Vosges cristallines, collines sous-vosgiennes et la plaine alluviale du Rhin. Donc ici, on se trouve sur les collines sous-vosgiennes, mais particulièrement au niveau du champ de fracture de Saverne. Donc le champ de fracture de Saverne, y en a trois ou quatre en Alsace, des champs de fracture. Celui de Saverne, c'est le plus conséquent, en fait. Il va d'Ernolsheim, là, chez notre ami Seb, ça commence à peu près là-bas, jusqu'à Andelot. Et c'est un champ de fracture, en fait, qui fait que ce qu'on voit justement là dans le paysage, on est quasiment sous une forme de damier. Il y a des monticules qui ressortent plus que d'autres. L'Ostenberg, le Schararberg, le Bassberg aussi, un peu plus au nord. C'est des collines qui se dégagent dans le paysage. Et qui sont issus de toute une sorte d'action de tectonique des plaques. Hein. Forcément, il y a eu des failles qui ont fait surélever ou rabaisser certains blocs. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Pour vous présenter donc les terroirs, on va commencer par là. Alors, on travaille ici à Westhofen sur les terrains du Trias, essentiellement. Sur le Buntsandstein, le Muschelkalk et le Kuiper. Ça, c'est les trois étages du Trias sur lesquels on va travailler. Un petit historique, je vais vous raconter une petite histoire. il y a fort longtemps, il y a un peu plus de 300 millions d'années, se trouvait une énorme chaîne de montagnes qui regroupait toute la France quasiment, de la Bretagne à l'Allemagne, on va dire. C'était la chaîne Hercynienne. Il y avait des sommets à plus de 8000 mètres d'altitude. Voilà, beaucoup plus haut que l'Everest actuellement. Hein. C'était des sommets vraiment gigantesques. C'est ce qu'on appelait la chaîne Hercynienne. Et en Allemagne, on avait une énorme mer, quoi. Enfin, des océans énormes. Pendant le Bunzenstein, il y a eu une érosion, plusieurs millions d'années forcément. Hein. Mais tout ce qui venait de la chaîne Hercynienne se jetait vers la mer germanique, vers l'Allemagne. Donc c'est ici, à Westhofen, on se situait dans une sorte de delta. On avait des fleuves avec beaucoup, beaucoup d'énergie qui déposaient des sables. Des sables, des alluvions, des galets, mais essentiellement des sables. Donc on était au niveau d'un delta, un peu comme les Bouches du Rhône, si vous voyez. Je ne sais pas si vous avez déjà été ou en Camargue. C'est une étendue qui paraît plane, mais avec quand même pas mal d'énergie, et le Rhône qui afflue avec beaucoup, beaucoup de dépôts. Là, on était dans à peu près dans le même secteur, donc un delta, un fleuve qui se déversait dans la mer. Et c'est ce qui a donné ce dépôt de sable qui, aujourd'hui, s'est transformé en grès hein, sous les forces, sous les contraintes, le sable qui s'est enduré. On a à peu près 300 mètres d'épaisseur de grès, de sable. Donc c'est vraiment un afflux vraiment conséquent. Hein. Des montagnes à 8000 mètres qui se sont érodées et qui ont donné justement ce côté remplissage alluvionnaire sédimentaire et qui donne aujourd'hui le grès des Vosges qu'on connaît tous, mais avec des épaisseurs vraiment vraiment énormes, quoi.
On peut avoir différents types de grès en fonction du type de roche érodée au départ.
Là la chaîne Hercynienne, c'était des granites hein, essentiellement. Ouais. Après le grès c'est constitué de silice, hein, c'est des grains de sable. Okay. Qui sont indurés, et les grains de sable, c'est de la silice, hein, formule SiO2. Et là, le grès des Vosges, il est particulier parce qu'il est riche en oxyde de fer, quoi. C'est ce qui donne cette teinte un peu rosée. Après, c'est des roches qui sont vachement poreuses, hein. C'est des réservoirs d'eau, hein. Quasiment tous les villages des collines sous-vosgiennes en Alsace, elles ont leur pompage, leur alimentation en eau potable. Les pompages se font dans ce grès, quoi. C'est des aquifères, on appelle ça un aquifère, c'est un réservoir d'eau qui permet de vraiment garder l'eau et puis pouvoir pomper une bonne alimentation, quoi, bien fournie. Donc ça, c'est pour le Bunzenstein, entre 250 millions d'années et 220 millions d'années à peu près. Suite à cette période, s'ensuit une invasion de la mer germanique. Une invasion, une transgression marine, si on peut être un peu plus scientifique. Donc la mer est arrivée, a recouvert. C'est ça, on les aime. La mer est arrivée et s'ensuit des dépôts plus sédimentaires, donc des types calcaires, quoi. Là, il y avait à peu près, je sais pas, une centaine de mètres d'épaisseur d'eau. Enfin, on était au niveau d'une mer, d'un océan, quoi. Hein. Et là, c'était la période du Muschelkalk. Donc le Muschelkalk, on est sur un calcaire massif, très fossilifère, avec énormément de débris de coquilles. Muschelkalk, hein, calcaire à moule, hein, mais ça a été simplifié comme ça. Mais finalement, on y retrouve des coquilles de d'ammonites, de térébratules, toutes sortes de bivalves, quoi, qui ont... C'est plutôt ce type-là qui vont soit être entiers comme celui-là, mais on n'en trouve pas toujours des entiers, ou alors plutôt en débris, quoi. Des récifs coralliens aussi qui vont se fossiliser et qui vont donner cet aspect calcaire. En fait, le calcaire, ça vient aussi de ça, hein. Ça peut venir d'un récif, des fossiles et des boues qui sont assez, assez fournis, quoi. Donc alternance de dépôts marno-calcaire, marno-calcaire, marno-calcaire. Ça a recouvert en fait quasiment toute l'Alsace et la Lorraine aussi. Le Muschelkalk. Après le Muschelkalk, s'ensuit donc une régression marine. La mer s'est retirée. C'est reparti et on est plus dans un climat tropical. On est dans un état très lagunaire aussi. On est sur des mers peu profondes, à peine quelques mètres d'épaisseur, quelques centimètres peut-être. Et c'est des mers qui étaient sursalées, donc très riches en sel, ce qui a donné la formation on appelle ça les évaporites, c'est la famille des sels en fait, hein, Donc on a du gypse, on a de la halite, de l'anhydrite, enfin toutes sortes de sels qui vont précipiter sous l'action des fortes chaleurs, un peu comme ce qui se passe actuellement au Salar d'Uyuni, en Bolivie ou dans d'autres endroits du globe. Voilà, c'est les sels qui précipitent à ce moment-là et on va avoir cette formation de roches de type gypse. Donc les marnes, les boues qui se déposent petit à petit et puis des fois quand il n'y a vraiment plus d'eau, tellement il y a d'évaporation, il y a de la formation d'évaporite. Voilà.
Le gypse, c'est du sel ?
Le gypse, c'est de la famille des sels, tout à fait, ouais. Ah. C'est ça. Ouais, c'est une famille d'un sel, ouais.
Si là, je le lâche, ça fait ça.
Tu auras un petit goût salin, ouais. Après, ouais, celui-là, ouais. Il est déjà à l'air libre depuis un moment, il va un peu s'y perdre, mais effectivement, ouais.
Tu passes en deux, tu lâches le milieu.
Ouais.
Il est quand même obligé d'essayer.
Allez, pour
toi. Ah, si tu veux. Ouais. Les bouffeurs de cailloux, nous, on a déjà tout goûté, hein. On sait ce que ça goûte. Hein.
Pourquoi j'ai mis les noms chimiques là-dedans ?
C'est une bonne question. Après, il y a du.
C'est pas flagrant.
Il y a du magnésium, il y a du calcium,
potassium.
Il y a un peu de potassium sans doute. Ouais. Ça, là, tu me poses une colle. Je l'ai déjà vu ça, mais faudrait que je le voie. Il y a un peu d'eau aussi, forcément. Je te réponds tout à l'heure pour ça, si ça te dérange pas. C'est un peu trop chimique, voilà. Donc, ça, c'est pour les trois grandes assises. Donc, le grès. Enfin, vous avez compris la formation de ces roches, de ces sédiments. Donc le grès, le mouchol-calque et les marnes irisées du Kuiper avec le gypse. Ça, c'est les trois.
Et en termes d'air géologique, finalement, t'as un repère hein, du Kuiper, du Buntsteinien jusqu'au Kuiper. Ça, il se passe combien de millions d'années, quoi?
Ouais, c'est entre... Alors, le début du Buntsteinien, c'est 250 millions d'années. Mmh. Et la fin du Kuiper, on est à 180 millions d'années.
D'accord.
Donc, on est sur une échelle de 50 à 70 millions d'années.
Tout ça, c'est le Trias ?
C'est tout le Trias, ouais. Mm-hmm. L'ère secondaire Trias, ouais, c'est ça. Ouais. Donc l'époque des dinosaures et compagnie, ouais. Hein, il y en avait sans doute d'ailleurs, surtout pendant le Kuiper.
Juste avant le Jurassique. Juste avant le Jurassique.
Exactement, ouais. Après le Trias, il y a le Jurassique, ouais. C'est ça, tout à fait. Je vais pas parler du Jurassique parce que nous on travaille pas sur des dépôts du Jurassique. Par contre, sur le Scharrerberg qu'on voit là-bas, l'Engelberg, l'Altenberg de Wolfsheim, là ils vont travailler sur plutôt des terrains sédimentaires du Jurassique. Ouais. Surtout calcaire, il y a de nouveau la mer qui est revenue avec dépôts marno-calcaire. Voilà, c'est dominante calcaire, quoi. Marno-calcaire. Donc ça c'est la formation, ça se succède, les dépôts sédimentaires c'est vraiment stratifié, hein, c'est droit. C'est linéaire, on va dire, hein. Donc les calcaires étaient bien droits. Il y a à peu près 50 millions d'années, par contre, il y a eu un événement assez intense, c'est la formation des Alpes. Donc, surrection des Alpes, exactement, poussée des Alpes. Et suite à ces poussées de collision entre deux plaques et extension d'une autre vers l'Atlantique, il y a eu la formation d'un fossé d'effondrement, donc le rift alsacien. Hein. Avant, on pouvait voir une continuité entre ici et la forêt noire, hein. Tout était quasiment plan, enfin c'était plat on va dire, il y avait une continuité, mais il y a une telle extension et que voilà, le fossé entre l'Allemagne et l'Alsace, entre ce qui est matérialisé aujourd'hui par le Rhin finalement, et tout s'est effondré en bloc, c'est pas du tout en un bloc, hein, c'est en plusieurs blocs avec plusieurs failles qui ont justement, je vous parlais de ce côté damier qu'on peut lire dans le paysage là actuellement, on peut voir qu'il y a des choses qui sont plus élevé, plus surélevé que d'autres, c'est pour ça que ça fait affleurer des terrains qui sont d'âge différent et qui sont de nature différente. Ce qui fait pour le coup la richesse du vignoble alsacien, hein, clairement, et particulièrement celui de Westhoffen. Quand même. Voilà. Disons qu'il y en a d'autres, hein, des champs de fracture, tu vas à Riquewihr, à Ribeauvillé, il y a aussi des choses qui sont intéressantes. Mais
c'est au Rhinois.
En plus, voilà, c'est ça le problème.
Ouais.
Mais
il y a trois champs de fracture principaux ou quatre ?
Je crois qu'il y en a quatre, ouais. Celui de Bar, c'est un nouveau, ouais. Après Andlau ou Bar, ouais. Ribeauvillé, et il y en a un peu plus bas encore.
Un plus gros fac, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais le plus important, le plus conséquent, on va dire, en termes de structure et de faille, quoi, c'est celui de Saverne, quoi. Il est étudié dans tous les livres de géologie en France, en tout cas.
C'est celui qui se rapproche de la mer de base aussi, alors est-ce que ça a un sens?
De la mer?
Enfin, de la mer dans le sens où quand on avait un seul bloc et une surface plane et il y avait quand tu dis qu'il y avait beaucoup d'énergie,
ouais.
Finalement c'est une énergie qui se déportait plus vers Saverne et qui venait.
Bon, alors c'est quand même à l'échelle d'une région. Moi, quand je parlais de la mer germanique, ça, c'était pas juste en direction de Strasbourg ou de Baden-Baden. Hein, c'est vraiment à l'échelle régionale, vraiment grosse échelle, quoi. Le grès des Vosges, on en trouve quand même. Alors, plus tu vas dans le Haut-Rhin, plus sur le relief, tu vas voir des granites plutôt. Mais le grès des Vosges, ouais, ça va quand même assez loin. Hein. C'est pas juste un fleuve.
Vu que tu as forcément un delta qui prend une direction, forcément c'est au bout de cette direction que tu vas peut-être avoir un champ de fracture qui est d'autant plus important.
Alors le champ de fracture, il est quand même plus lié à la formation des Alpes qui vient beaucoup plus tard que ces formations, que le dépôt de ces formations-là. Quoi. Mais il est encore actif, hein, finalement. Nous, à notre échelle,
on ressent pas,
mais les failles, elles sont encore actives, hein, bien sûr. Le jour où il y aura un séisme, bah, peut-être que certains blocs vont un peu bouger. Alors c'est anecdotique, hein, c'est quelques centimètres, mais c'est encore assez actif, hein, le rift alsacien. Donc voilà, ça c'est la vallée du rift alsacien et qui fait aujourd'hui la richesse du vignoble alsacien, puisque justement je vous parlais de ce damier là. On met à juxtaposition des terrains qui n'ont absolument rien à voir. Grâce à ce champ de fracture, à ces effondrements. Alors, moi, j'essaie de vous simplifier la chose en vous dégageant trois structures, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Même un village comme Mittelbergheim, on essaie de simplifier en disant, voilà, on a essentiellement le marneau calcaire ou la plaine alluviale un peu plus bas et une assise calcaire. Mais finalement, c'est découpé en bandelettes ou même à l'échelle d'une parcelle, on peut passer d'une géologie totalement différente, quoi. Mais par souci de compréhension, même pour nous les vignerons ou les géologues, peu importe, on est obligé de simplifier et de schématiser, quoi. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Mais bon, c'est déjà assez le bordel comme ça. On va faire simple. Donc voilà, ça c'est pour la formation. Vous comprenez un peu le modelé du paysage. Comment ça se fait qu'on en arrive là? Donc je vous ai parlé des grandes structures. Plus localement, du coup, donc on va avoir je vous ai décrit les trois grosses formations. Donc ici, on est au niveau du Bruderbach. On est sur la partie terminale du Buntsandstein, ce qui veut dire qu'on est sur le grès des Vosges, mais en transition vers le Muschelkalk. Là, on peut voir qu'il y a la carrière, une ancienne carrière qu'on peut bien apercevoir. On a la fin du grès des Vosges. Et le début de la dolomie grès calcaire, quoi, qui est plus beige, voilà, plus ocre. Donc là, on est vraiment sur la fin des deux aires. Pour simplifier, en plus, là, on est vraiment au début de l'assise du Buntsandstein. Plus on va vers l'ouest, plus on va avoir du grès, vraiment 100% grès, quoi. Donc, au Bruderbach, on est sur le Buntsandstein, le grès vosgien. Avec quelques parties dolomitiques. Ça, c'est de la dolomie. Hein. Vous voyez que c'est un peu. On voit qu'il y a des petits trous, ouais, des petites alvéoles. On appelle ça une carniole. En fait, c'est un grès carbonaté qui s'est dissous, finalement, par l'eau de pluie. Hein. C'est l'érosion qui a fait ça. Donc, on est entre le grès et le grès dolomitique. Ce qu'on voit là-bas au loin, je vous ai parlé de l'Ostenberg. Là-bas, on est sur le calcaire Muschelkalk. Donc, c'est vraiment le coteau exposé sud, bien bien sud, très, j'en parlais à certains d'entre vous tout à l'heure, très rocailleux, très très solaire aussi, hein, vraiment une exposition au soleil qui est assez assez importante, quoi. Mériterait d'avoir sa place peut-être dans les grands crus d'ailleurs, vu cette exposition.
Et encore un.
Là-bas, on est sur les marneaux calcaires du Muschelkalk. On va se tourner un peu là-bas sur tout le coteau exposé nord, enfin une légère pente nord, toute la crête qu'on voit là, hein, ça c'est le Ballbrunnerberg, le Wolverbarry, et là on est sur quasiment exclusivement que des marnes irisées du Kuiper. Donc vous voyez qu'à une même altitude, à peu près, hein, on se situe à une même altitude, on a une géologie qui est totalement différente en fonction de. Donc je vous dégage les trois grosses structures, hein, c'est à peu près ça. Mais ouais, on peut voir qu'il y a eu ces effets de blocs effondrés et qui mettent en juxtaposition des terrains qui n'ont absolument rien à voir. Alors justement, ça c'est pour l'histoire géologique. Ce qui se passe dans le verre, ça c'est ce qui m'intéresse un peu plus. C'est ce que j'essaie de comprendre
aussi. Ah bon?
Plus. C'est encore un peu mystérieux et peu de gens arrivent à comprendre ça. Il y a eu quelques travaux de recherche qui ont été menés, mais en fait, moi, ce que j'aimerais bien essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qu'un terroir apporte dans le verre finalement, quoi. Le toucher de bouche, quoi, la texture, la minéralité, la salinité. Comment expliquer ça, quoi? Et ça, quand on travaille dans un domaine en biodynamie ou nature, voilà, il n'y a pas mieux pour exprimer les terroirs, hein, c'est clair. La biodynamie, elle révèle finalement les terroirs, hein, ça c'est une évidence. Donc, pour le grès, j'en ai un peu discuté avec certains d'entre vous tout à l'heure. Pour le grès, on va avoir quelque chose qui s'apparente, donc c'est dû à la silice, hein, forcément, c'est quasiment exclusivement composé que de silice. On va avoir un profil qui est beaucoup plus avec beaucoup de tension, de vivacité, de nervosité, en tout cas sur la jeunesse. Ça va donner des vins très acides, avec un tout petit peu d'âge, un petit peu d'élevage, des millésimes un peu plus anciens. On va avoir un côté, avec le grès va apporter un côté un peu velours, un peu voluptueux comme ça, suave, quoi, quelque chose d'assez généreux, mais tout en gardant une certaine acidité, mais après moi j'ouvre la discussion, hein, parce que vous êtes des sommeliers, vous êtes des professionnels, si vous avez d'autres choses à dire par rapport à ça, par rapport à ce que vous percevez du grès, ça m'intéresse, parce que
les grès c'est des sables a priori,
c'est des sables, ouais, c'est de la silice, ouais,
ouais c'est ça sables,
mais c'est des sables indurés, c'est pas aussi léger qu'un sable,
mais il y a cette légèreté en principe même dans les, ouais, dans les grands terroirs de grès où on mm-hmm. va trouver effectivement ce caractère réchauffant,
ouais, chaleureux, ouais, enfin réchauffant, ouais,
parce que c'est des sols qui réchauffent, mais toujours avec un certain lift et une certaine élégance, une certaine légèreté,
ouais,
en principe,
oui, sur la, ouais, ok, ouais, ça c'est, je suis assez d'accord, en tout cas pour le grès, ouais, moi je trouve que dans la jeunesse c'est quelque chose qui est très
calin,
vif, quoi, ouais.
Mais c'est...
Élégance, ça me va, c'est un mot qui me va bien pour le grès, ouais, ça c'est vrai. Oui, voilà, ça c'est. En tout cas, ça donne des beaux profils. Assez unique, hein, finalement. Hein. Vous avez. Donc il y a le Bruderbach. Du côté d'Andelot, on a le Wibelsberg, qui est 100% grès. On a le Kessler, si je ne m'abuse.
Kessler, ouais.
Qui est grès, mais grès calcaire ou grès dolomitique aussi, il me semble.
Kessler, c'est même gréseau. Alors il y a le Kitterley qui est gréseau volcanique et le,
oui,
Kessler qui est gréseux.
Ouais, ouais, gréseux, voilà, c'est ça. Ouais. Donc il y a de quoi déjà s'amuser, mais finalement c'est assez rare sur le vignoble alsacien, le grès 100% grès, quoi.
Et sur le Kessler, c'est assez impressionnant d'avoir, ouais, justement des vins toujours assez fins, hein, assez,
ouais,
plus en délicatesse, plus distingués justement.
Élégant.
Ouais.
C'est ça.
C'est ce qui fait pas que les autres manquent d'élégance, mais il y a une distinction qui est assez caractéristique finalement.
Tout à fait, ouais.
Qu'on peut déceler dans ces terroirs.
Bah, le calcaire, il va peut-être être plus charmeur, il va être plus dans la,
ouais,
séduction.
Rond, alors qu'il est.
Le schiste, il va être plus. C'est le plan d'un soir, tu vois.
C'est de la roche dure, alors ça,
direct,
ça donne quelque chose d'assez strict en fait.
Le grès, lui. Ouais,
les propriétés, si... rien que même sans parler du chimique ou du minéral, mais de la propriété physique finalement,
ouais,
de,
ouais,
chacun de ces sols,
ouais,
on arrive parfois à faire des liens à la dégustation.
Mais tout à fait.
Ouais.
C'est là où c'est intéressant parce que tu prends Durman, il a trois Riesling sur trois terroirs différents, mm-hmm, et c'est dingue le changement de.
C'est fou, ouais, ouais.
T'as pas l'impression, enfin c'est même cépage, quoi.
Même
mais
cépage, même millésime, même philosophie, de même vinif,
ouais,
mais avec des structures en bouche qui sont complètement différentes.
C'est,
ouais,
ouais,
c'est... Bah, j'ai fait l'expérience avec certains d'entre vous tout à l'heure, avec nos terroirs, donc Bruderbach, Ostenberg et Altenberg de Bergbitten, sur le même millésime, sur le même cépage, même vigneron, hein, même vinif. Et on a quand même trois profils totalement différents. Mmh. Et c'est là où je trouve que ça devient intéressant et où moi je m'éclate, quoi.
Ah bah oui, bien sûr. On essaie d'y trouver une part de vérité.
La texture, effectivement,
ouais,
on a.
Ouais, exactement. Alors, pour moi, en tout cas, à mon sens, je trouve que le cépage en Alsace, ou peu importe où d'ailleurs, peu importe la région, le cépage, ça va plutôt jouer sur le côté variétal, sur le côté organoleptique d'un vin. Le nez, le bouquet, l'arôme, la saveur. Là, on dit souvent qu'un vin est fruité, floral, tout ça. Pour moi, en tout cas, à mon sens, ça vient du cépage.
C'est le cépage.
quand on va parler de géologie, de terroir, là on va plutôt chercher la, comme tu disais, la texture, le toucher de bouche en fait. Et il y a une vraie distinction
qu'on a goûté tout à l'heure.
Ouais.
Je trouve que ça a impacté aussi le profil aromatique.
Ah mais c'est possible, clairement. Ouais. Je donne des généralités, mais
tu peux distinguer l'organique et le minéral.
Ouais.
Mais le minéral peut avoir un impact effectivement aussi sur l'organique et sur le profil même mal, ça, variétal des cépages. Ouais.
Après, c'est peut-être pas le minéral qui s'exprime, c'est peut-être aussi
en partie forcément
l'impact climatique sur des sols plus ou moins drainants, sur des je sais pas.
Ouais, aussi, bien sûr. C'est
pas
complexe
la
déjà.
Minérale, mais ça reste la signature du sol et du climat. Un terroir étant pas seulement son sol et son sous-sol, mais aussi tout ce qui va autour.
Bien sûr, ouais. C'est un triptyque, hein. C'est la rencontre entre le vigneron, l'homme, la plante, la vigne, et puis le sous-sol, la géologie, quoi. Hein.
Comme tu disais, il faut quand même schématiser un minimum pour essayer de comprendre ou de sortir certaines.
Exactement.
Certains axes.
En tout cas, oui, c'est ça. Mais ma vision, en tout cas la mienne, c'est voilà, le terroir, c'est ce qui va s'exprimer en termes de texture et en toucher de bouche, plutôt que l'aspect dans la dégustation. J'entends bien, hein, voilà, une dégustation, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a quand même plusieurs approches. Hein. On a le nez, on a le visuel, on a le nez, on a l'aromatique, le côté organoleptique. Et après, on a la dégustation et c'est ce qui se passe en bouche, quoi. Donc, l'aspect saveur, mais aussi la texture, quoi. Et on a tous des sensibilités différentes, certes. Et voilà, à mon sens, on a des sensations qui sont infinies, mais des mots qui sont finis, quoi. On n'arrive pas à mettre des mots sur tout ce qu'on ressent, finalement. Et ça, c'est ce qui fait la beauté du vin, hein. On est tous passionnés par ça, je pense, grâce à ça. Alors je reviens, on s'est un peu égaré, mais je reviens sur le. Donc on a fini le grès. Ensuite le mouche ou le calque, donc profil on va dire calcaire, hein, dominante calcaire. Le calcaire, ça va donner des vins plutôt. Alors sur la jeunesse peut-être pas, mais on va avoir des vins un peu plus gras, plus.
Sur le sel. Enfin, sur le sel.
Particulièrement le mouche ou le calque, ouais. Puisque ancienne mer justement, avec plein de débris de fossiles, mais on a souvent ce côté iodé qui ressort, ouais. Effectivement, ouais. Ça se voit surtout du côté de Molsheim là, ou de ouais. Là ils ont vraiment du mouche ou le calque avec des grosses assises calcaires. Ouais, là on sent bien le côté iodé. Là c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus de marne que ce qu'ils ont à Molsheim. Ouais.
Sur le Brudertal, le marne calcaire,
ouais.
C'est vrai qu'on ressent bien ce caractère assez iodé.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ici, bon, pareil, on va avoir ce côté un peu salin, mais on va avoir ce côté un peu plus opulent. On a goûté l'Ostenberg avec vous. On sentait aussi cette puissance, ce côté très solaire aussi, très. Sur la jeunesse, hein. Après, plus ça vieillit, plus on va avoir des notes de gras, de moelleux. Enfin, moelleux, pas dans le sens sucré forcément, mais côté un peu gourmand, comme ce qu'on peut retrouver en Bourgogne parfois. Là-bas, ils ont essentiellement du calcaire, hein, marneau calcaire. Ça va donner ce toucher un peu gras, quoi. Pour les marnes irisées du Kuiper, on va aller sur des profils qui sont un peu plus... la marne apporte, l'argile essentiellement. Les marnes sont des argiles carbonatées, hein, mais on va classer ça sous les argiles, voilà, les marnes. Ça va apporter de la puissance, une certaine astringence aussi sur la jeunesse, mais aussi quelque chose de, ça va amener un profil plus charpenté, je pense. Ça va vraiment, ça va être puissant mais charpenté, quoi.
C'est large,
exactement. Ouais, voilà. C'est les argiles, hein, ça a une propriété de rétention d'eau. C'est d'ailleurs imperméable. On sent ce côté large qui a été bien nourri, pas de stress hydrique, quoi. Vraiment bien fourni, quoi, bien large. J'aime bien employer le mot de charpenté. C'est les sommeliers qui disent ça. Je trouve ça joli.
Bon charpenté.
Ouais. Et puis bon, la particularité de ces marnes, c'est qu'elles sont salifères. Donc je parlais du gypse tout à l'heure. Donc on a à la fois la puissance associée au terroir, et puis on a ce côté salin qui est amené par les gypses, par les sels, quoi.
Et ça, c'est quand même fabuleux. Hein. Voilà.
Ça, c'est l'Altenberg de Berbitten.
En fait, vraiment, tout le Balbrunner Berg qu'on voit, c'est des marnes irisées. Donc, on passe des marnes rouges à des marnes vertes, à des marnes noires, plus grises sur l'Altenberg aussi. Parfois, d'une parcelle à l'autre, même à l'intérieur d'une même parcelle, on change totalement de couleur. Hein. C'est des dépôts qui ont été faits, ouais, comme je vous ai dit, dans des lagunes, hein, beaucoup d'évaporation. Et en fonction de ce qu'il y avait à l'époque comme éléments chimiques dispo, hein, ça précipitait et puis ça donnait des couleurs vertes, marron, rouge. C'est assez beau, hein, c'est beau à voir. J'ai essayé de vous le retranscrire là. Hein, on voit qu'il y a quand même plusieurs couleurs.
Mm-hmm. Bon.
C'était
des nuances.
Des nuances, ouais, c'est fait minute. Hein, c'était en surface d'ailleurs, j'ai pas pu me ramener avec une pelle et puis creuser.
Un carottage de sol.
J'aimerais bien faire un carottage pour voir vraiment ce qui se passe parce que finalement, voilà, un paysage, c'est visible, on voit tout ce qui se passe, mais sous nos pieds, bah, on part dans le milieu de l'invisible, quoi. Hein, donc il y a beaucoup de suppositions aussi, il y a beaucoup d'interprétations. Mais on n'est pas sûr de tout. Hein. Les cartes géologiques, c'est les cartes de l'affleurement, en fait. C'est les roches qui affleurent. Sachant qu'on est sur un champ de fracture, qu'il y a des terrains, enfin, il y a des failles dans tous les sens, c'est dur d'avoir une vraie, vraie connaissance de ce qui se passe sous nos pieds, quoi. Ouais, ça, normalement, c'est le cas. Hein. On peut, enfin, certaines vignes, ça dépend du terroir, bien sûr, hein, mais on peut descendre à 10, 15, 20 mètres hein, sur certains terroirs. Quoi.
Vous avez des exemples de carottage ou je ne sais pas s'il y a d'autres moyens d'étudier à cette profondeur-là, justement, quelles sont les traversées
ou... Oui, il y a eu des forages qui ont été faits dans l'histoire hein, pour les captages d'eau en alimentation en eau potable des communes, tout ça. C'est des données qui sont publiques. Hein. On peut voir que bon, ça, c'est des forages qui descendent à 150, 200 mètres, par exemple. On peut voir la succession des strates et des formations géologiques. À l'échelle d'un vignoble, franchement, c'est complexe parce que déjà, y a tout un couvert végétal. Y a très peu de choses qui affleurent, donc on a du mal à s'imaginer, à visualiser ce qui se passe. Franchement, c'est complexe, c'est le bordel, mais c'est à la fois c'est riche, quoi. C'est tellement une telle diversité que... y a de quoi s'amuser et puis le fait qu'il y ait autant de cépages en Alsace, je pense que c'est pas pour rien finalement, parce que un cépage se marie quand même, il y a un mariage qui se fait avec un terroir ou deux, quoi. Et le fait qu'il y ait cette palette, cette diversité de cépages, à mon avis ça vient aussi de nos aînés, de nos anciens qui ont déjà compris que là on doit pas avoir le même sol. Ce cépage-là se prête beaucoup mieux à cette parcelle-là que juste le voisin, quoi. Pourquoi on plantait Gewürztraminer? Alors, bien sûr, il y a l'appréciation, le goût du vigneron, ce qu'il voulait faire, ce qui marchait à l'époque, etc. Mais à mon avis, ils ont très vite compris que le Sylvaner, ça ne marchait pas sur tel cépage, sur tel terroir, pardon. Le Riesling, il se prêtait plus sur des sols légers comme le grès, le sable, ce genre de choses, que sur des argiles, quoi, bien brutes, enfin... On en voit, mais c'est pas forcément une franche réussite, quoi. Des Riesling sur argile 100%, quoi. Ou sur alluvion, finalement, c'est peu d'intérêt. Le Gewürz, ça marche bien avec des marnes en général. On en parlait tout à l'heure, les marnes salifères. Les calcaires, c'est un peu dangereux, c'est un peu périlleux parce que ça donne quelque chose avec beaucoup trop d'opulence, trop riche, trop fourni aussi, quoi. Trop sur l'aspect variétal, on en parlait, je crois, tous les deux tout à l'heure. Je pense que les anciens ils avaient compris que d'une bande à l'autre, d'une parcelle à l'autre, on avait un terroir qui était complètement différent, donc ils plantaient un autre cépage, quoi. C'est pour ça que finalement les possibilités elles sont infinies en Alsace, parce qu'on a 7, 8, 9, 10 cépages en moyenne sur tous les terroirs possibles qui existent, en fait. Hein.
On pourrait en planter d'autres pour le coup maintenant.
On pourrait en planter d'autres, c'est un peu la problématique et puis les enjeux de demain, hein, c'est ça, hein, c'est qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va dépérir, c'est vrai qu'on a des étés de plus en plus chauds, mais bon, on a quand même encore les saisons bien marquées, je crois que le vignoble alsacien, il a de beaux jours devant lui encore, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais après... on connaît tous des vignerons et vigneronnes qui ont tenté le coup avec d'autres cépages, hein, qui ont planté de la Syrah, du Sangiovese,
du Sylvaner Rouge.
Du Sylvaner Rouge, ben, ça c'est un cépage ancien. Qui est que chez nous d'ailleurs. Non,
c'est encore un autre débat ça.
Ouais. Ça c'est les cépages anciens mais qui fonctionnent quoi. Voilà, ça a une vraie typicité, authenticité quoi. Mais non, je sais que bah, nous par exemple on a planté hein, quelques pieds de Syrah pour tenter sur une parcelle de Pinot Noir. Je crois que certains voisins, je ne vais pas citer de nom pour éviter de dire n'importe quoi, mais il y en a qui ont planté ouais, du Sangiovese, du Nebbiolo, ce genre de choses. Pourquoi pas, hein. faut voir venir quoi, faut anticiper. En fait, quand tu plantes, quand tu arraches déjà une parcelle en vue d'en replanter, ça prend déjà un an pour arracher, un an pour que la terre gèle, dégèle, enfin se refasse quoi, refasse un peu son.
À moins de surgreffer.
À moins de surgreffer, mais ça c'est aussi un peu périlleux, mais ça se fait hein, bien sûr. Donc un an, deux ans, tu replantes, il te faut trois ans avant que tu puisses produire du raisin, en tout cas le vinifier finalement. Donc tu es déjà à cinq ans. Si tu es sur un grand cru, avant de revendiquer, il vaut mieux attendre 7 à 10 ans, parce que bon, pour une jeune vigne, revendiquer un terroir, ça vaut pas le coup et puis ça fonctionne pas. Le terroir, il se révèle qu'à partir de 10-15 ans au moins. Hein, donc voilà, on parle de 10-15 ans. Bah, 10-15 ans, c'est long, hein. C'est presque un tiers d'une carrière, on va dire, ou un quart, on va dire. Ceux qui plantent aujourd'hui, bah, Etienne, là, il plante. On a récupéré une parcelle à l'Altenberg de Berbitten. Il pense faire de la bouteille revendiquée à Altenberg de Berbitten dans 10 ans, pas avant, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. Et ouais, si tu dois changer de cépage, il faut tester, quoi.
Ouais, c'est plus la phase de test.
Avec là, on est en phase de test un peu tous, ouais. Ouais. Mais bon, voilà, il y a des cépages comme le Riesling, le Sylvaner, le Pinot Noir. Normalement, ça devrait encore bien se passer quoi, pour eux sur le vignoble alsacien. Quoi. Avec le climat qu'on a, c'est plutôt pas mal. Après, la Syrah, bon, ça fonctionne. Hein. Vous avez tous goûté, je pense, la Syrah de chez Muret. C'est intéressant quoi. Ça a le mérite d'exister et puis c'est super bon quoi.
Ça se tient quoi.
Ça se tient, c'est pas déconnant. Ouais, donc c'est chouette en tout cas. Bah clairement, si tout le monde pouvait faire de la biodynamie, c'est vrai que le vignoble se porterait mieux. Mais ouais, c'est clair. En plus, bah, nous, vous voyez, en plus ici au Broederbar, on a la proximité avec la forêt. Hein. Si on va vers l'ouest, on est sur une des plus grosses forêts du Bas-Rhin, il y a je crois 9000 hectares de forêt hein, pour la forêt de Westhoffen, ce qui est vraiment énorme, ou 900 peut-être, bon peut-être, peu importe, mais c'est cette proximité aussi avec le végétal, avec la fraîcheur qui empêche aussi de subir ce côté sécheresse aussi qu'on a en Alsace de plus en plus chaque année.
Il faut arrêter de défricher quoi.
En partie ouais, mais en parlant, enfin,
arrête les vignes Ikea.
Pour rester dans le thème des terroirs, moi je vous ai parlé du coup du grès. Le grès, je vous ai dit que c'était un gros réservoir d'eau, c'est un aquifère assez conséquent. Il y a une propriété de rétention d'eau qui est vraiment importante, quoi. C'est des terroirs qui sont, enfin, c'est un sol qui est vachement humide. Vous êtes allé au château du Königsbourg, au château du Haut-Bar à Saverne, même à la cathédrale, peu importe. Quand on met la main sur le grès, c'est frais, c'est humide, ça garde cette fraîcheur quoi. C'est jamais sec 100% quoi. Ça c'est un avantage. Le marneau calcaire du Mouchol Calque, bah, les marnes elles ont cette propriété de rétention d'eau aussi. Le calcaire du Mouchol Calque, il est fracturé, il permet une bonne infiltration de l'eau. Et voilà, c'est des terrains qui sont pas du tout drainants ou asséchants. Les marnes, c'est les marnes du Kuiper. Voilà, c'est des terrains qui sont gras, lourds. Mais parce que justement ils ont cette propriété de rétention d'eau. L'été dernier, pendant la sécheresse, nous on passait la pioche dans certaines parcelles, dans les marnes justement là-bas. Franchement, deux coups de pioche et t'étais sur quelque chose de vachement humide, vachement boueux encore quoi. Pourtant en surface, t'avais l'impression que c'était le désert, c'était sec. Mais les marnes, elles ont cette propriété de. Voilà. Donc par rapport à, en tout cas à l'échelle du vignoble de Westhoffen, au domaine L'Œuvre. On est assez bien gâté par les terroirs parce que ça nous permet de, avec la biodynamie bien sûr, mais ce côté terroir nous permet d'avoir très peu de stress hydrique, quoi. C'est ça qui est intéressant. Sur des terrains vers Saint-Hippolyte ou ouais, au pied du Haut-Königsbourg, là on est sur des granites, des arènes granitiques, c'est des terrains qui sont ultra drainants, beaucoup plus secs. Et tu peux pas forcément mener la même viticulture là-bas qu'ici, quoi. C'est différent, hein. Mais bon, l'homme s'adapte, hein. Les vignerons, ils savent s'adapter, ils savent trouver les clés. Mais en tout cas, ici, c'est vrai qu'on est gâté par rapport à ça. Et, je dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas, on a moins de stress hydrique, quoi, dans les étés chauds comme il peut y avoir.
L'importance déjà de bien connaître aussi ces terroirs et ces terrains sur lesquels...
C'est indéniable, quoi. Ouais. clairement. En tout cas on essaye. Mais voilà, vous voyez que bah, dans la viticulture et puis dans la dégustation, ça a toute son importance, quoi. Et voilà, je vais pas faire l'apologie de la biodynamie, mais c'est quand même ce genre de viticulture qui permet de révéler les terroirs.
Ésotériste.
Oui, je suis ésotérique. Dédicace à Steiner, hein, mais franchement... comparer, enfin, vous le savez tous, vous êtes professionnels maintenant, mais comparer des vins plus conventionnels ou bien conventionnels, on va avoir peut-être des bons vins sur l'aspect, mais plutôt variétal. On va avoir un bon muscat, un bon riesling, un bon gewürz, mais vas-y pour chercher, pour déceler un terroir, quoi.
La signature terroir,
elle est souvent inexistante, quoi. Hein, voilà, la biodynamie en tout cas, ça permet de révéler ça. Il se passe plein de choses au niveau microscopique. Les liens entre les racines, les champignons, les microbes, etc. Ben, ils font le taf que nous on voit pas dans le sous-sol, et ils mettent le lien entre la roche et la plante, quoi. Ça c'est fabuleux, quoi.
On s'est planté en tuant la vie dans les sols, tout simplement, quoi. La biodynamie, c'est aussi ça, c'est retrouver une vitalité, une richesse dans les sols.
Ouais.
Qu'on a pensé inutile ou pas forcément des plus utiles.
Dans le sol, dans le ciel aussi.
Parce ouais, bien sûr.
S'il n'y a plus de vie dans le sol, il n'y a plus d'oiseaux. Enfin, c'est
ouais.
Ça con. Hein.
Ouais, c'est ça.
Quand tu vois des milans bleus, des milans noirs qui tournent. Voilà.
Garder une biodiversité.
Juste là, on est là, on regarde le nombre de champs d'oiseaux qu'on a.
Mais finalement, c'est aussi le lien, la biodynamie, ça englobe pas mal de choses. Hein. C'est aussi une pensée, c'est une philosophie, c'est pas juste la pulvérisation de préparat un peu barré à base de bouse de corne et de silice. Enfin, c'est un peu plus que ça, quoi. On met en lien je parlais du le microscopique, en fait, hein, la microfaune, la microflore, avec le gigantisme des planètes. Donc on part du plus petit, on met le lien entre les énergies telluriques enfin je sais pas trop comment.
Ouais,
c'est ça. Le lien entre le sol et le cosmos, quoi. Mais le microscopique et le gigantesque.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.